faut en parler. Un podcast proposé par Stop Suicide et Minds, association pour la promotion de la santé mentale. Saison 3, Entre mecs.
Je m'appelle Quentin Delval.
Je m'appelle Mike Biederman.
Marie Dizeran.
Et moi c'est José Tippenauer alias Geos.
Épisode 1. Émotion.
Quand j'essaie de penser au modèle que j'ai pu avoir en étant enfant par rapport aux émotions, j'ai l'impression que j'en avais pas, en fait. C'était même pas dans le radar du tout. Et c'est très, 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 très tard dans la vie, genre à presque 40 ans, que ce thème est venu parce que je suis devenu papa et que j'étais face à un enfant qui a plein d'émotions. Je lui en parlais, je lisais des livres pour enfants sur le sujet. Et donc, ça arrivait très tard de me dire, mais en fait, ça ressemble à quoi d'en avoir, d'en parler, d'en les écouter. Et donc, je me rappelle que pendant tout un moment, enfin, après j'ai regardé en arrière et je réalisais qu'en fait, j'avais pas de modèle. Et du coup, me projeter sur c'est quoi le Quentin qui a des émotions ou qui les entend ou qui est, comme on dit aujourd'hui, beaucoup vulnérable, je savais pas du tout ce que ça allait donner. J'avais l'impression que ça allait être une catastrophe, j'avais pas m'en relevé, que j'allais être ridicule ou des choses comme ça. Et il y avait vraiment une espèce de mur, quoi, ou de fossé, je sais pas très bien comment l'exprimer. Alors on pourrait discuter de pourquoi, est-ce que c'est parce que je regardais trop de films d'action avec des hommes qui ont des flingues et pas assez de discussions. mais voilà, c'était pas... j'ai pas eu ça au niveau paternel, j'ai pas eu ça dans les groupes d'amis, j'ai pas eu ça dans les lieux où je faisais du sport ou des choses comme ça. Donc voilà, un peu le désert. Je sais pas ce que vous avez eu comme modèle.
Vas-y.
Ouais, de mon côté, j'ai grandi avec un père agriculteur qui montrait vraiment pas du tout ses émotions, c'était complètement inexistant. Une maman qui les montrait un petit peu plus, mais j'avais pas de modèle masculin qui montrait ses émotions ou qui les vivait ou qui les comprenait. J'ai grandi dans le Jura avec un groupe de potes que des gars 100% masculins où il y avait un rapport à la boisson et à la bêtise en soirée qui était assez intense. Et puis c'était un petit peu toujours le concours de celui qui faisait la pire bêtise, celui qui buvait le plus. Et puis avec même un système de sanctions, mais un système peut-être des fois même d'insultes quand tu finissais pas une bière ou ce genre de choses. Donc en fait, moi j'ai construit un rapport à moi puis aux autres qui était vraiment tout ce qu'il y a de plus cliché en termes de masculinité, je pense, pendant longtemps. Puis après, j'ai commencé à faire des études en sciences sociales et politiques. Je pense déjà avant, j'avais des sensibilités pour pas mal de sujets. Puis là, je pense que ça a vraiment switché. Je me suis un peu éloigné de ce groupe-là. Et je pense que ce rapport aux émotions, il a aussi évolué, en fait, depuis mes 18 ans. Depuis ce moment où il y a eu un petit peu un tournant dans les idées, dans le rapport au monde, dans le rapport aux personnes.
Moi, si je réfléchis au modèle, je pense que c'est assez binarisé en parlant par exemple de mes parents. Mon père, qui ne témoignait comme émotion principalement ou pratiquement que la colère. Et ma mère, qui elle, par contre, était beaucoup plus justement dans des ressentis qui se laissaient assez facilement prendre par les larmes, par exemple, y compris de tristesse ou de joie. J'allais dire heureusement, non, je sais pas, mais en tout cas, mon père était quand même relativement absent, ce qui fait que moi, de ma fratrie, j'ai deux frères et une sœur. J'étais celui justement qui pleurait le plus facilement. Alors après, bon, je suis le tout petit frère, donc j'ai aussi développé la capacité à pleurer pour me défendre et appeler les parents quand mes deux grands frères, qui sont d'ailleurs beaucoup plus balèzes que moi, profitaient de leur statut de supériorité. Mais bref, tout ça pour dire que je rejoins Quentin sur le fait que c'est venu plus tard aussi, l'analyse en tout cas en lien avec ça. C'est pas forcément des choses qu'on conscientise sur le moment. Mais c'est vrai qu'aussi, j'ai grandi dans des environnements très très masculins, le rap, le foot, etc. Donc je vois tout à fait aussi l'homosocialité dans laquelle on peut évoluer en tant qu'homme. Après, bon, le Jura, Genève, etc., c'est peut-être pas exactement les mêmes contextes, mais quand même. Et donc, moi, je me rappelle que, par exemple, j'ai arrêté le foot à une époque et j'ai tilté bien plus tard, que c'était notamment parce que, justement, je trouvais que la dynamique du vestiaire de foot était hyper nocive, en fait. Toxique, pour dire le mot utilisé à la mode depuis un petit moment. Mais Voilà, donc pour dire en comparaison avec d'autres hommes, notamment, je me rendais compte que, en tout cas, les larmes montaient plus facilement. Après, je me rappelle plus à partir de quand j'ai décidé de les accepter totalement, mais relativement tôt. Mais en tout cas, même le fait qu'elles montent, bah, il y avait comme ça un premier signal là où je voyais justement des gens autour de moi, et y compris quand je reviens sur ma fratrie ou mon père, une incapacité totale à se laisser aller sur ce type d'émotion. Par exemple, le fait de montrer qu'on est triste, etc., même dans des contextes très fort, de perte de proches ou des choses comme ça, où je voyais les hommes de mon entourage du coup se retenir à n'en plus pouvoir pour éviter de montrer justement ces larmes, quoi. Donc ouais, en résumé, en tout cas, un truc assez binaire comme ça, l'homme colère et la femme dans la sensibilité avec les larmes de joie et de tristesse.
Moi, avant de parler de modèle, peut-être me situer un peu plus en termes de genre. On parle, ben, du coup, pour le coup, on est des hommes et on se reconnaît dans le genre qui nous a été assigné à la naissance. Tous autour de cette table, on parle de mecs, etc. Alors, moi, j'aime varier et fluidifier cette notion-là pour dire que oui, je me reconnais dans mon sexe biologique, dans le genre qui m'a été assigné à la naissance, mais je me reconnais pas du tout dans les notions de genre, de masculinité que autour de cette table sur lesquelles on peut se mettre d'accord. Depuis très très petit en fait, et je pense que ça a été très vite conscientisé par mes parents et mon entourage. Et puis ma gestion émotionnelle ou ma conscientisation des émotions a donc été très largement influencée par mon statut de personne queer, qui certes n'était pas du tout envisagé à l'époque où je construisais mon identité émotionnelle ou mes réflexions émotionnelles, mais il y avait quand même une part de ça, vu que c'était quand même, enfin, ça a toujours été avec moi, donc ça a quand même beaucoup influencé et informé cette réalité là. Moi, j'ai jamais eu de modèle, du coup, parce que c'est vrai que quand on est un enfant, ben, très différent. Alors à l'époque, on était efféminé, métrosexuel, tout ce qu'on veut. Enfin bref, on rentrait pas dans la notion de masculinité que voulait nous faire avaler la société, du moins. Donc j'ai eu aucun modèle. Mes parents, c'était toujours une division, pas du tout sexuée du travail, de la gestion émotionnelle, enfin à la maison, c'était très éclaté. Mon père a toujours été un très bon féministe et un allié très très conscient de son positionnement, etc. Même si c'est un grand mec, entre gros guillemets, viril, fort, voilà. Ma mère, c'est la Comunità dell'Arte, on est italien, donc du coup, elle, c'était vraiment, elle partait dans live tout le temps, et si elle peut, le plus elle peut exprimer ses émotions, le mieux c'est. Et donc, de mon côté, c'est vrai que j'ai toujours, peut-être comme Géos l'a dit, j'ai toujours conscientiser l'impact de mes émotions sur les autres plus que sur moi. Et ayant été victime de violences très graves et très très jeunes déjà, et le fait typiquement de pouvoir me laisser pleurer, ce que j'ai jamais fait en fait. Moi, j'ai toujours résisté à la violence par le silence ou par le faire le dos rond. Donc j'ai très très peu vécu mes émotions, j'ai très peu pleuré, j'ai très peu... Je manipulais, oui, à la maison, comme on l'a tous fait, je présume, mais à l'extérieur, quand il s'agissait vraiment peut-être de réactions émotionnelles plus fortes, j'avais des autres formes d'action, disons. Et j'avais une gestion émotionnelle qui, je pense, était déjà très, très intellectualisée et réfléchie très, très vite, de par la violence ambiante dans l'environnement. Mais clairement, ben, peut-être que j'aurais bénéficié d'avoir eu des exemples publics, visibles autour de moi, mais c'est clair que ben, ça, il n'y en avait pas. Il y en a d'ailleurs aujourd'hui toujours pas beaucoup.
Ce truc de... enfin, cette question des émotions, puis cette question des larmes, moi, c'est vraiment un truc que j'ai vécu toutes les dernières années. Puis en fait, encore jusqu'il y a 2 ans, c'était vraiment difficile pour moi de comprendre vraiment bien mes émotions, puis d'accéder à des pleurs sincères qui peuvent être des fois hyper cathartiques et qui font trop du bien. C'était un truc, je comprenais les mécanismes, c'est quelque chose que j'appréhendais bien, ce terrain des émotions, mais pas personnellement. En fait, encore il y a peu de temps, c'était vraiment, vraiment difficile de pleurer un bon coup et puis de se dire « Ah, c'est chill, enfin, c'est genre juste une émotion parmi d'autres et mieux les vivre, mieux les comprendre, ça va juste m'aider. » Genre, je mettais les pieds au mur dès que je sentais les larmes qui montaient. toutes les stratégies qui étaient bonnes pour ne pas les faire sortir.
Mais les stratégies psychologiques parce que tu avais été éduqué comme un homme, du coup.
Ouais, exactement. Mmh. Parce que je sais pas, il y avait un truc, ça me bloquait. Puis en fait, je savais très très bien que c'était ça. C'était que juste, on m'avait pas dit que c'était normal de pleurer. On m'avait pas encouragé à le faire. Et peut-être même sûrement qu'on m'a découragé à montrer des signaux de faiblesse, que ce soit dans le cadre familial ou dans ces groupes de sociabilisation à l'école, quoi.
Bah, c'est super parlant que c'est codé comme de la faiblesse, en fait.
Ouais, exactement. Ouais.
Et tu sais ce qui a fait que finalement tu es arrivé à avoir cette capacité finalement ?
Ouais, moi je pense que le travail thérapeutique depuis un an et demi, deux ans, c'est genre une grosse pierre là-dedans, mais il n'est pas arrivé tout seul en fait. C'était beaucoup de questionnements. Si je reviens un petit peu quelques années avant la thérapie, parce que c'est pas du jour au lendemain, on se lève le matin et on se dit « Ah ouais, je vais y aller, ça va me faire du bien ». En fait, moi, j'ai vécu un truc vraiment pas fun sur le plan de la santé mentale, que j'ai pas du tout identifié comme étant sur le plan de la santé mentale à l'époque. C'est que j'ai vécu des commotions à répétition dans le sport, en faisant du ski. Et j'ai passé, en fait, les mois après les commotions, c'est genre à vivre des symptômes, enfin le syndrome post-commotionnel qui est vraiment violent. La lumière te fait mal, le son te fait mal, t'es aigri, t'as des troubles de l'humeur, t'as mal à la tête, t'as l'impression de perdre la mémoire, mais tu sais pas si tu perds la mémoire ou c'est juste la manière dont ton cerveau fonctionne. Puis en fait, à chaque fois, je prenais beaucoup de temps de me remettre de ces trucs. Puis en fait, j'ai pas du tout pu parler de ça autour de moi. J'étais en coloc avec des gens super qui sont encore des potes maintenant que j'aime trop. J'ai pas osé en parler alors qu'ils auraient peut-être super bien accueilli cette souffrance. Et puis en fait, moi j'ai eu un trouble de stress post-traumatique. Tous les trucs qui me rappellent ces périodes de commotion, ça me faisait complètement paniquer. Ça veut dire des fois les gueules de bois, on est un peu vaseux, pâteux, mal au cerveau, et ben paf, ça me replongeait dans ça. Et puis ça pouvait activer un truc vraiment violent chez moi. Puis au bout d'un moment, j'étais là, mais il faut que je trouve une solution pour ce truc. En fait, j'ai dû trouver une solution sur le plan physique à ce qui était en fait aussi des problèmes de santé mentale. J'accédais pas à mon terrain émotionnel. Mon terrain émotionnel était brouillé par ce truc. Et puis en plus de ça, j'arrivais pas à me dire la santé mentale, en fait, ça me concerne moi aussi. Genre, à cette période-là, j'ai vraiment envie de me suicider à un moment. Et puis, en fait, il fallait faire quelque chose, quoi. Et je pense que ouais, j'ai pas mal botté en touche sur plein d'aspects pour qu'en fait j'arrive seulement il y a deux ans à faire une thérapie et puis à aborder ce terrain-là.
Mais quelqu'un t'a suggéré aussi peut-être d'aller vers cette dimension de la santé mentale
ou... Ouais, non, c'est ouf. Je pense qu'il y avait vraiment la volonté de plus me renseigner sur la santé mentale. Et puis c'est aussi une période où justement je sortais d'études, j'ai lancé un podcast, c'était presque une proposition de stage. Le thème, ça s'avérait être la santé mentale. Puis en fait, plus j'en apprenais, plus j'étais là, mais en fait, genre c'est ça que je vis. J'entendais les récits des autres et puis en fait j'étais là, mais ça je reconnais comme mécanisme, ça je reconnais comme mécanisme, ça je reconnais comme mécanisme. Et au bout d'un moment, tout d'un coup, je pouvais plus faire comme si c'était que la santé mentale, c'était que les autres. En fait, la santé mentale, c'était moi aussi. C'était évident au bout d'un moment.
Ouais, moi, je m'identifie beaucoup à ce côté comment savoir si c'est de la santé mentale. Il y a toujours ce côté où tu te dis pas c'est ce qui est en train de se passer. Il y a toujours une autre cause, il y a toujours une autre explication. Et puis, on arrive à des moments de crise où, à ce moment-là, il y a des choses qui peuvent se débloquer. Mais rien que ça, ça fait peur, quoi. De se dire que juste parce qu'on sait pas ce que c'est, on peut aller dans ce genre de souffrance que tu décris là.
Mm-hmm.
Ouais. Et du coup, peut-être que grâce à ce que tu dis, d'autres personnes qui t'écoutes vont faire comme toi quand t'as écouté les autres, se dire ah tiens, ça me concerne aussi.
Mais c'est clair. Ouais. Mais en fait, moi je pense qu'il y a un gros problème, c'est genre le mythe de la performance, l'injonction à la performance. Et ça, franchement, c'est genre tu y reviens tout le temps en fait. Moi, quand j'étais mal et que c'était dans les périodes d'université, j'avais toute la famille puis tous les gens autour de moi qui me mettaient la pression pour retourner à l'uni puis faire mes examens. Et puis dans le sport, en fait, tu te poses pas la question, tu penses juste à la prochaine compétition. Puis je pense que ce truc de performance, même si on n'est pas hyper compétiteur, compétitrice, c'est un truc, franchement, ça matrix, quoi. T'es quand même tout le temps appelé à être dans le faire des choses, tu dois un petit peu tout le temps quand même prouver plein de choses, je pense.
Je trouve vachement intéressant dans nos expériences différenciées parce que quand on parle de... Pour moi, la santé mentale, ça a toujours été... Enfin, je l'ai toujours considéré comme un privilège parce que quand tu es face à cette violence du monde contre toi toute ta vie, tu es tellement toujours en danger, tellement toujours sur le qui-vive que du coup, tu n'as pas le temps de réfléchir à ta santé mentale.
Et quand tu parles de privilèges, enfin, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui subissent des violences tellement même en lien avec même leur intégrité physique, etc., que avoir le luxe, entre guillemets, de se poser la question de la santé mentale est un privilège, c'est ça que tu dis?
Ouais, pour certaines personnes, notamment, ben, c'est là où, en fait, où je pense qu'en termes d'identité de genre, ça fluctue, c'est-à-dire que c'est pas un privilège, c'est une nécessité. Fondamentalement, en fait, un survivant, une survivante, une victime, t'as pas le temps de te poser les questions.
Dans les deux cas, c'est nécessaire, c'est juste qu'il y en a qui n'ont pas la gentillité, la marge de possibilité au tenter.
Pas le choix, en fait, c'est ça. Sinon, je serais plus là aussi aujourd'hui, je pense. Du coup, c'est le privilège du choix que tu perds, en fait.
Je vois hyper bien ce que tu veux dire. Et puis, je pense que, ironiquement, pour moi, le privilège d'être un homme blanc cis, en fait, il a retardé ma prise en charge psy, en fait. Ça fait que, en fait, le monde était tellement adapté, entre guillemets, pour moi. Il est tellement, la société, elle va tellement dans mon sens qu'en fait, à part ces trucs de commotion, je pense que j'étais le type le plus heureux du monde. Et puis, c'était merveilleux, en fait. Et comme tu dis, ce truc de tout d'un coup être amené et t'as plus le choix, et genre il y a une situation de crise, et ben moi je l'ai vraiment ressenti, c'était tout d'un coup, ben voilà, j'avais plus le choix. Et je pense que c'est un truc d'homme en général de pas prendre soin de sa santé, et puis de pas, quand t'as 50 ans, aller faire des tests pour voir si t'as pas un cancer de je sais pas quoi, et puis que, enfin même avant en fait, je sais pas, c'est quand même bien bien, et quand je dis homme, je binarise volontairement le discours.
Binarisation, on est là, on est, le titre est binaire, donc il faut qu'on soit dedans.
Et moi je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est, est-ce que t'étais vraiment le plus heureux du monde, ou est-ce que t'étais dans une illusion, dans le sens où maintenant que tu as un autre rapport à ta propre vie émotionnelle, est-ce que tu te dis, ah, si j'avais eu plus tôt, même sans les commotions, ça aurait été mieux?
Ouais, alors c'est sûr que ça aurait été mieux. Là aussi, je pense que j'ai un petit peu tiré le trait. Je pense qu'effectivement, il y avait des périodes qui étaient très douloureuses. Et en fait, je ne me suis pas autorisé à les voir comme douloureuses ou à ressentir cette émotion.
C'est ça.
Et je me suis aussi souvent dit, c'est plus grave ailleurs, il y a des gens autour de moi qui ont pire que ça. Je me sentais pas du tout légitime aussi de dire que ça allait pas, en fait. Je pense qu'il y a plein de mécanismes qui se sont mis ensemble, autant par rapport à ce qu'on a parlé avant d'émotion, autant par rapport au fait des fois de juste pas se sentir légitime avec mes petites histoires de me taper la tête en faisant du ski, quoi. C'est quand même un peu aussi un problème de privilégié quand tu réfléchis.
Bon, on a quand même une tendance toujours à minimiser ce genre de choses.
Ouais.
Dès qu'on vit un trauma, quel qu'il soit sur le temps long, sur le court terme, de dire comme tu le phrases, tu vois, c'est juste mais je me suis cogné la tête. Bah, en fait, non. Ça a un impact sur notre santé tellement, tellement grande. Et je pense que du coup, on inculque aux hommes à dire c'est pas grand chose et à faire le dos rond tout le temps. Et c'est là où il y a aussi des joint ventures ou des points de liaison. C'est que tant en tant que victime, tu ne dois pas assumer ton statut de victime, et tant en tant qu'homme, on doit te dire que tu es fort, etc. Et donc, du coup, tu ne peux pas avoir été victime de quoi que ce soit, en fait. Et tu ne peux pas subir sur le temps long quelque chose qui t'a été... Je suis dans une phase actuelle où je me réapproprie enfin, après 29 ans maintenant, mon statut de victime et mon statut de survivant, ce qui est ultra dur pour moi parce que j'ai déjà de regarder le petit Marius qui a traversé toute son enfance, etc., avec cette violence-là, j'arrive déjà pas à lui donner de l'empathie et de la bienveillance, etc., parce que pour moi, c'est sa faute, etc. Enfin bref, des horreurs absolues que je dirais absolument non si je l'entendais dans la bouche de quelqu'un d'autre. Et j'observe aussi la manière dont j'ai géré mes émotions et dont j'avais, enfin, la propension que j'avais à les repousser, à ne jamais même exprimer de la colère, même jamais de la tristesse, mais juste, en fait, j'ai tellement été tout seul face à cette violence-là que du coup, je me suis dit, de toute façon, si toi-même tu t'effondres et tu n'arrives plus à faire face à la violence du monde, autant finir, en fait, il n'y aura plus rien derrière. Et donc du coup, si je me laissais l'espace pour vivre mes émotions, je me serais écroulé et j'aurais jamais pu faire face à la violence qui allait suivre. Et donc aujourd'hui, j'essaye un maximum de les réapproprier, de me laisser pleurer, de me laisser vivre tout ça, parce que je sais que je pourrais continuer comme ça avec mes mécanismes de défense et de dissociation qui fonctionnent ultra bien, qui sont des procédés psychologiques plus ou moins sains quand même, mais être poussé à un tel point qu'il y a un moment, je ne vis pas aussi potentiellement les émotions contraires aussi, qui peuvent être très positives, la joie, d'une manière aussi, du coup, totalement intégrée et totalement associée, en fait.
Est-ce que tu peux préciser quand tu parles de dissociation? Je pense voir de quoi on parle, mais pour être un peu précis, j'imagine aussi que les gens qui nous écoutent ne savent pas exactement.
Bon, je suis pas psy ni psychothérapeute, mais quand, enfin, moi, je sais que je dissocie, c'est que face à la violence, quand je subis autanté la violence, je dissocie de mon corps. Ça peut être un procédé très physique où en fait je suis plus dans mon corps, soit je me protège et je mets des barrières de ouf, donc j'entends plus rien. On pense à une microagression queerphobe dans un taxi. Je sais que je vais pouvoir fermer mes œillères et si ça devient trop dur, faire un truc qui va faire arrêter le taxi et que je puisse sortir. Enfin, c'est ce type de dissociation là. Après, quand t'es face à des agressions autres qui sont beaucoup plus c'est-à-dire que quand dans la rue, on te regarde à peu près 50 fois par jour, on t'insulte à peu près 10 fois par jour, on te suit la nuit quand tu sors, enfin quand tu rentres, etc., etc., etc. Il y a un moment, tu apprends à dissocier, peu importe. Donc quand tu arrives dans un endroit, tu es dissocié. Et c'est là où c'est le plus difficile aussi de se réassocier. Et donc du coup, de pouvoir vivre des expériences, comme j'ai dit avant, positives,
d'être voilà. présent et
de savoir quand enlever tes barrières, quand réassocier, etc. etc. Et cette notion de productivité, c'est drôle parce que du coup, je me dis, voilà, moi, je m'occupe de ma santé mentale pour être plus productif par la suite.
Tu veux dire quoi par la suite? Tu te dis, dans 5 ans, j'ai cet objectif-là, je sens que je n'y arriverai pas si je ne le fais pas ou...
Oui, face à la violence qui, en fait, devient accrue.
Okay.
Aujourd'hui, en fait, plus j'avance dans le monde, plus je suis public. Et en fait, je ne peux pas... continuer à fermer les yeux en fait, et à mettre mes œillères par rapport à ça. Et donc, du coup, je sens que l'étau se resserre. Et donc, tout ça a fait que mon rapport à mes émotions est très complexe. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, de par ce que je vis actuellement dans ma vie politique, dans ma vie publique, et ce qui est en train de remuer et de revenir à la surface comme anciens traumas et abus, je pense que je fais face à un lot d'émotions absolument énormissime. Donc faire face à ça, c'est beaucoup. Donc j'essaie de juste l'approcher aussi avec plein de douceur et essayer d'avoir un discours vraiment gentil par rapport à ça, parce qu'effectivement, je suis en train de vivre un moment où c'est en train de revenir comme un torrent et une vague. Donc voilà, c'est j'ai pas tellement de solution, c'est plus un peu un aveu de Marius disant en 2025 de ce qui se passe comme bilan émotionnel. Mais à ce niveau-là, ce que je trouve vachement intéressant, c'est la manière dont je sais que j'ai toujours été, que j'ai toujours souffert et que je prenais comme acquis le fait que je pleurais une à deux fois par année quand je regardais et que je me forçais à regarder la scène de Roxy Rookie où elle abandonne Rookie dans la forêt et c'est horrible. Et il la voit dans le rétroviseur, j'ai envie de chialer rien que d'y penser. Et maintenant, je me dis, mais en fait, t'as tellement de raisons de pleurer. Et aujourd'hui, que du coup, t'as pas besoin de cette scène. Et juste se réapproprier ces émotions-là, pour moi qui suis pourtant, qui vend ça tout le temps et qui suis publiquement une personne ultra intègre et ultra droite et ultra digne et ultra tout ce qu'on veut, bah en fait, derrière le vernis, il y a autre chose qui se passe. Et donc, c'est peut-être une invitation aussi à être plus honnête avec soi-même, malgré l'image qu'on offre au monde.
Mais l'un n'est pas une trahison de l'autre.
Non.
C'est deux choses qui coexistent.
Elles coexistent encore.
Et elles se construisent l'une grâce à l'autre, j'ai l'impression.
C'est ça, tout à fait. Et donc, c'est là, enfin non, il faut reconnaître cette douleur-là, en fait. Et je pense que dès le moment où on peut, en tant que personne, se le reconnaître, en tant qu'homme, se la reconnaître, déjà c'est 50% du travail, et après la porte est ouverte et on va pouvoir faire un vrai travail, en fait.
Ben, merci pour ce que tu as partagé, c'est fort. Je trouve qu'on est un peu aussi piégé par le langage, en général. Parce que, comme tu dis, c'est des choses qui s'excluent. On peut pas être à la fois victime et à la fois être performant. Et puis, on parle de santé mentale, alors que quand on pense aux émotions, c'est corporel aussi. C'est pas juste intellectuel. On a dit ça tout à l'heure. C'est pas vraiment juste quelque chose qui se passe dans la tête. Mais c'est plutôt la part, comment dire, c'est une part de la santé. Mais quand on dit santé mentale, en tout cas, jusqu'ici, moi, je l'entendais comme étant quelque chose qui avait trait à la réflexion. Alors que dès que tu commences à avoir une expérience d'eux, c'est un peu ce que tu racontais aussi, c'est ce que moi j'ai vécu aussi, tu te rends compte que c'est un vécu beaucoup plus organique et beaucoup plus mélangé, qui dans le langage peut être séparé entre corps et esprit, entre vulnérabilité, force, etc. Mais qui dans le vécu n'est pas différencié comme ça, en fait.
Moi, à titre personnel, je sais que c'est marrant parce que là, j'ai un truc un peu ambivalent dans le ressenti. C'est-à-dire que c'est marrant parce que justement, c'est quelque chose qui m'est venu assez tôt d'avoir le ressenti, les larmes aux yeux, même en écoutant de la musique qui me plaisait, d'avoir les yeux rouges, etc. Donc, j'ai toujours eu un peu l'intuition de si ça vient et que c'est une réaction naturelle, pourquoi la brimer, quoi. Mais en même temps, sur ce côté intellectuel, justement, pour revenir là-dessus, moi, je sais que c'est aussi des cours à l'université en gender géographie, enfin c'était des cours de culture, de géographie culturelle en bachelor, qui m'ont aidé justement à plaquer des mots, une grille de lecture sur mon quotidien justement en tant qu'homme cis avec des origines afro-descendantes. Quand j'ai suivi ce cours-là, c'est dingue parce que il m'a complètement ouvert les yeux concrètement, c'est-à-dire voilà, c'est comme si j'avais des hypothèses, des suspicions comme ça en lien avec le quotidien, et là bam, il y a les outils, il y a la grille de lecture, il y a le côté intellectuel qui vient et qui permet d'y voir plus clair. Mais c'est là justement où je rejoins Maë, c'est que quand on commence peut-être à surintellectualiser, ben c'est peut-être une forme de nouvelle dissociation. Ça veut dire qu'on se remet maintenant dans le truc de « ouais, j'ai tout compris », etc. Mais du coup, je suis au-dessus de cette mêlée-là. On peut retomber dans ce que disait Maë, c'est-à-dire voir ça que pour les autres, avoir l'impression d'avoir compris justement le schéma. Tu parlais de théorie, etc. Donc on maîtrise le truc, etc. Mais on ne se l'applique même plus forcément à nous, et peut-être même qu'on se coupe d'un ressenti. Et c'est assez difficile des fois d'identifier. Tu disais tout à l'heure, Quentin, aussi, est-ce que quand on a un problème, est-ce qu'il est lié à quelque chose de mental, ou est-ce qu'il est lié à quelque chose d'émotionnel ou de physique, ou... Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'essaie d'écouter mon corps, mais moi, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup quand même aidé. Au moment où j'ai eu ces cours-là de géographie de genre, capter en fait tout ce qui nous pèse en tant qu'homme dans cette société, évidemment pas autant que notamment sur les femmes ou sur certaines minorités, etc. Mais c'est la même matrice qui vient s'appliquer sur nos épaules. Et moi, ça m'a vraiment, pour revenir sur cette question de santé mentale, ça m'a libéré d'un poids, en fait, d'identifier tout ça et de dire, c'est de la mythologie déjà. C'est-à-dire l'homo masculinicus qu'on nous vend depuis petit, en fait, ne sera jamais atteignable. Et pour plein de raisons, notamment du fait qu'en plus, c'est pas un modèle cool, mais même s'il l'était, en fait, de toute façon, ça n'existe pas. Et on fait que se mentir. Justement, au football, dans mon environnement de rap, etc. Et je voyais qu'on racontait jamais. Par exemple, moi, j'avais un moment... j'ai eu à des moments de ma vie pas mal de problèmes justement en lien avec des pannes ou des choses comme ça sur le côté sexuel. Je sais que j'étais aussi très cérébral, donc je me posais plein de questions, etc. Et je me rendais compte que quand je parlais de ça avec mes potes, tout le monde était un performeur incroyable au lit, etc., etc. Ils partent en vacances, ils reviennent, ils t'inventent 40 000 histoires. Ils partent en boîte de nuit, ils reviennent, ils te racontent 40 000 histoires, etc. Et c'est des petites brisures comme ça dans la carapace masculine qui font que tu commences à te dire « Oh purée, il y a Anguille Souroche là !» Et on accepte tous ensemble de se mentir, alors qu'on sait, on se regarde dans les yeux « Ouais, moi, avec la meuf là, ça s'est passé comme ci, comme ça, toi tu sais que tu mens, ton pote il sait que tu mens. » Et du coup, j'étais là au bout d'un moment, les gars, venez, on arrête ça en fait. Peut-être je vais terminer là-dessus sur ce long monologue, mais moi je comprends totalement, je comprenais aussi mes potes, je comprenais mes grands frères qui avaient de la peine à pleurer, etc. Parce que en fait, il faut assumer justement des ressentis qu'on nous a pas, on n'a même pas la case en fait créée en nous au moment T pour se dire ok, en fait c'est normal. Et puis cette question de la performance, de la productivité, etc. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, tu fais un burn-out, on te demande de revenir très vite au travail, etc. Donc les problèmes sont au niveau structurel, il y a tellement de choses à reprendre et à déconstruire, mais la productivité, non.
Ce que je trouve vachement intéressant, c'est quand tu disais brisure dans cette carapace, en fait, une fois que tu as la brisure qui est faite, je pense qu'il te reste deux chemins. Soit tu te poses des questions et t'en parles et tu discutes de ça avec les personnes qui t'entourent ou autres, ou alors tu as eu des très bonnes bases pour te dire tout de suite, je prends la tangente de la santé mentale, je vais me poser des questions parce que c'est intéressant. Soit Et c'est dans cette case que s'inscrit, je pense, toutes les tendances masculinistes et puis qui arrivent à toucher des jeunes qui sont en total mal-être, c'est que du coup, ils vont taper dans cette insécurité-là et dans ce fait que, en fait, cette figure archétypale dont tu parlais avant de l'homme cis-het blanc absolument extraordinaire que personne arrivera, auquel personne n'arrivera à correspondre, ben, en fait, c'est dans ce mal-être-là, la non-correspondance, que du coup, ils s'inscrivent et puis qu'ils arrivent à les choper en leur disant que, en fait, le grand méchant loup, c'est le féminisme et puis la déconstruction de genre et puis ces notions-là, en fait. Et je trouve ça vachement intéressant par rapport à ce que Quentin a dit sur les réalités qui coexistent. Je trouve que dans l'époque qu'on traverse aujourd'hui, ce qui est intéressant, au-delà des phénomènes sociaux comme les mouvements MeToo et les mouvements de réappropriation, en fait, de son vécu, de son parcours, de la violence qu'on a vécue, dans cette réappropriation de son propre vécu de trauma, les hommes pourraient tellement s'en inspirer en disant, mais en fait, il y a une telle puissance dans le fait de se mettre face à la violence qu'on a subie ou de communiquer ou d'être juste vulnérable. La puissance de la vulnérabilité, je trouve extraordinaire aujourd'hui. Et se dire, mais en fait, les trois hommes que j'ai en face de moi aujourd'hui sont tellement forts et tellement puissants, tellement plus puissants que des mecs qui jouent les gros bras à l'arrêt de bus et qui sont là, c'est quoi ça quand je passe? Enfin, des trucs comme ça où je me dis, mais enfin, c'est assez dingue. Et je me dis, mais si on peut leur laisser un truc, c'est se dire, mais il y a tellement plus de puissance à se poser des questions et à être vulnérable que à essayer de correspondre à cet archétype dont on parlait, qui est juste totalement inopérant, quoi.
Ouais, et même, je trouve, ce mot de vulnérabilité, il passe mal auprès des hommes en général. Je pense qu'il est très mal compris. Et peut-être qu'il est pas mal choisi. Je pense qu'il est bien choisi, mais comment dire, je suis entièrement d'accord avec toi sur le côté, ça donne du pouvoir d'action. Tu récupères un pouvoir de... Alors, j'ai pas envie de dire contrôle, mais je vais le dire quand même, sur certains aspects qui t'échappent autrement. Moi, je sais que j'ai vécu des moments de tension où j'étais dans une déprime noire et puis physiquement j'étais voûté et tout. Et puis t'arrives à nommer, ou on te force à nommer ce qui se passe. Tu trouves les mots justes et ça, pour moi, c'était comme je prends cette image d'un sucre qui se dissout dans l'eau, en fait. Tout d'un coup, ça disparaît. Et puis je retrouve une capacité à penser, juste avoir des idées, à avoir envie de faire des choses. C'est vraiment, tu passes d'une plante flétrie à quelque chose qui repousse, mais juste parce que tu as trouvé... Pour moi, la vulnérabilité, et finalement, je la comprends comme tu as juste le courage d'avoir le risque de la relation. C'est-à-dire, tu dis à quelqu'un d'autre comment tu es vraiment, et cette personne-là, à un moment donné, elle a ça en ses mains, et puis elle peut en faire quelque chose. Et moi, ça m'est vraiment quasiment rarement arrivé qu'elle en fasse quelque chose de dégueulasse pour me faire du mal. Ça se passe souvent super bien. Et en fait, c'est donner la possibilité aux autres de prendre soin de toi. Mais c'est pas du coup, vulnérable, je trouve, ça, c'est un mot qui est...
Moi, je le trouve tellement beau. Il est tellement beau. C'est tellement beau, vulnérable.
Ouais, ouais. Mais c'est aussi, c'est une forme, comme tu dis, c'est une forme de puissance, cette vulnérabilité. C'est pas juste dire j'arrive pas à, ou je peux pas, ou je sais pas. C'est dire j'en suis là. Est-ce que tu peux me rejoindre à cet endroit-là, en fait? Et je trouve ça, ouais, ça correspond aussi à mon expérience à moi. Et pour revenir sur cette question du progrès qu'on se posait sur comment on chemine par rapport à ces émotions, comme vous tous, c'était plus dans le temps long qu'une espèce de... Enfin, toi, José, tu décris un peu un moment où tout ce que tu as pu vivre est un peu clarifié par un événement. Moi, j'ai plus une idée d'archipel ou de pierres qui sont sur un ruisseau et tu passes de l'une à l'autre et au bout d'un moment, tu arrives à l'autre rive. Et je pense que, comme Maï, tu disais, la thérapie a joué un rôle. C'était une pierre. Je sais que j'ai eu un thérapeute qui arrivait avec une question, toujours la même, pourquoi ? Mais il la posait au moment fatal, quoi. Et il me snipait.
Il s'est mis dans l'interstice aussi,
ouais.
Il était là.
Il me regardait comme ça, avec ses lunettes en main, et puis je parlais, j'étais vraiment en mode armure, comme on a déjà utilisé cette image. Puis il arrivait, pourquoi ? Et puis là, je me mettais à chialer, et c'était à chaque fois, il me... Voilà. Mais c'était dans l'espace protégé, c'était une bulle, et quand je sortais dans la rue après, ça n'arrivait plus, et avec mes proches non plus.
De pleurer en l'occurrence.
Hein ?
De pleurer, d'accepter. De
ouais,
pleurer.
Et puis ouais, c'est ça, d'arriver à accéder à quelque chose qui, comme tu disais toi-même, de quelque chose qui monte en toi, qui te dépasse et qui te saisit et que tu peux pas repousser, quoi, qui est pas intellectuel et que tu décides pas de faire.
Tu peux, mais en fait, t'as pris la décision de pas le faire.
Ouais.
C'est qu'il a.
Moi, parfois, j'essayais de résister, j'y arrivais pas aussi. c'est ça qui c'était parmi c'est la thérapie, c'était une des premières expériences où ça c'est plus fort que toi. Enfin moi ça je l'ai vécu là et c'était rarement en dehors de du cabinet thérapeutique que ça se passait. Même dans des événements comme tu mentionnes de décès de proches ou trucs comme ça quoi. Et après je pense le cheminement de reconnaître le moment où là où j'en étais pour ce qui se passait vraiment, d'accepter les émotions. C'est fait aussi au contact de certains savoirs queer, où j'étais en présence de personnes qui avaient des vécus difficiles, de violences aussi, qui étaient des violences soit psychologiques, soit physiques, mais des jeunes, des moins jeunes, qui avaient vécu des choses difficiles. Et j'étais à côté, j'ai pas vécu ces choses-là, mais je travaillais avec ces personnes-là, notamment, parce que j'ai travaillé à Vogue à l'époque, dans ces vogue queer. De travailler aussi dans des milieux pour l'égalité des chances dans des institutions où j'étais souvent le seul homme. Et puis dans le club de lecture Afrolite que je mentionne dès que je peux parce que c'est un projet incroyable de Pamela Onenyako si elle nous écoute. C'était des moments où tu réalises que comment dire, je me projetais pas dans leur douleur, mais je prenais la mesure en fait de ce que ces personnes avaient vécu. Puis finalement, au bout d'un moment, tu l'as ressenti, c'était safe, c'était pas ton émotion à toi, t'as pas pleuré parce que toi t'as vécu un truc, mais t'as participé à quelque chose. Et puis, dans mon cas, je le dis souvent, la paternité arrive, et j'ai des boules d'émotions, deux enfants, deux garçons qui sont des boules d'émotions, et qui viennent me dire, le premier en tout cas, dès qu'il savait parler, il me dit texto, à un moment donné, je me rappelle, c'était un petit déjeuner, on s'était un peu disputé, et puis après je lui fais un bisou pour lui dire « on fait la paix ». Et puis, mais j'étais pas bien. C'est-à-dire qu'on n'avait pas résolu le conflit qu'on avait eu. Et je pense qu'il devait avoir 3 ans et demi maximum. Il me regarde et il me dit « Papa, j'aime pas quand tu fais semblant que t'as résolu et que c'est pas vrai. » Ou que t'as dépassé ton émotion et que c'est pas vrai.
Un deuxième coup de « Ouais,
là, dans le cou. » Ouais, le gros sniper. Et je me rappelle, il m'a scotché et je me suis dit « Mais en fait, c'est ça que je suis en train de faire, quoi. » C'est vraiment ça que je fais en général dans la vie. J'essaye de vite passer à autre chose. Je m'arrête pas dans ces moments-là. Donc je ne vis pas vraiment tout court en fait. Et moi c'est un sentiment de responsabilité que j'avais un peu eu face aux personnes pour qui je travaillais dans certains contextes d'égalité, mais avec les enfants c'était encore plus fort. C'est ces êtres humains-là, ils me regardent, ils vont s'inspirer de leurs parents. Quoi, et je me sentais très responsable de pas leur transmettre en fait ce ça. Et donc je me suis dit à un moment donné, j'ai un peu vécu le côté je sais plus exactement ce que Marie disait tout à l'heure, mais le côté quand il y a une faille dans la carapace, t'as des choix. Et j'ai un peu vécu un moment comme ça, je me suis dit soit je m'obstine à faire semblant et je sais, et ils savent que je fais semblant parce qu'ils me le disent, donc la honte quoi, enfin, franchement, soit j'essaye de faire mieux en fait, j'essaye de faire plus juste et j'essaye de pas réprimer. Et c'est toujours pas simple, mais je pense que c'est du coup mon parcours à moi de ça a été ces moments où sans avoir de modèle très clair, tomber sur quelques bonnes personnes qui donnent quelques clés par petites touches de peinture successives, tu commences à comprendre que si tu arrives à le vivre de temps en temps, rien ne va s'écrouler. Tu vas pas devenir quelqu'un de moins bien ou quelqu'un dont tu dois avoir honte ou quelqu'un qui a failli ou qui a faibli ou qui ne se reconnaît pas lui-même, parce que moi j'avais aussi, je pense, une grosse résistance qui était je me connaissais très bien en tant que comme qui ne fait pas ça, qui ne pleure pas, qui ne dit pas ce qu'il pense, mais je me connaissais pas moi en tant que personne plus émotive. Et puis à un moment donné se dire les autres valent mieux que ça et je vaux mieux que ça. Et prendre ce risque-là. Et en fait, j'ai jamais non plus entendu de témoignages de personnes, d'hommes en l'occurrence, qui s'y essayent. Par exemple, j'étais dans un groupe d'hommes à Copenhague quand j'y ai vécu. On avait donc c'était un groupe où on se réunissait toutes les semaines pour être moins patriarcal, mais il y avait une semaine sur deux où on parlait justement de la vie émotionnelle qu'on avait. C'était une obligation. Et j'ai jamais entendu dans ce groupe de personnes qui regrettaient d'avoir fait ça en fait. Il n'y avait que des choses alors qui pouvaient être compliquées, douloureuses, parce qu'on ressent des émotions qui peuvent rappeler, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, des moments difficiles, qui peuvent être angoissantes. Mais justement, on apprend aussi à voir que ces choses-là passent, et que derrière, il y a aussi des joies. Et puis, on se coupe. Enfin, moi, je me suis beaucoup coupé aussi de la capacité à ressentir de la joie ou en donner à d'autres personnes. Et ça, maintenant, ça arrive plus fréquemment et les gens me le disent. Donc, c'est un peu mon comment on appelle ça, mon compas.
Curseur, ouais.
Ouais, mon curseur, voilà. Pas mon compas, je dis compas, c'est ma boussole. Compas en anglais, ma boussole. Donc, voilà.
Maï, on t'a pas entendu depuis un petit moment.
Oui,
lance-toi.
Non, mais j'aime bien l'image que tu as donnée avec... Enfin, les exemples que tu as donnés avec l'évitement puis la vulnérabilité. Et puis, c'est vrai que je me reconnais hyper bien dans cette espèce de truc où tu as un petit peu peur de ce que ça va amener, les émotions, dans un premier temps. Et du coup, tu évites et tu passes tout en passant à l'activité d'après. Et je pense que moi, j'ai un côté un peu hyperactif. Et en fait, tu gommes juste toute la...
La sève.
Là, je sais pas, tu gommes un petit peu toutes tes expériences vécues en passant à la suivante parce que t'as peur de ce que ça va amener, les émotions. Et puis en fait, ce terrain vulnérable qui fait un peu peur, pour moi, ça a été ensuite la meilleure porte d'entrée vers vivre pleinement les choses et puis accéder à des choses qui me faisaient peur, mais en fait, qui m'ont tellement aidé. Et j'aime bien aussi le pourquoi de ton thérapeute parce que en fait, dans mon expérience en thérapie, il y a tout le temps, en tout cas au début, toute une première partie où je vais intellectualiser, rationaliser, mettre des mots pas possibles. J'ai une très bonne compréhension du sujet de la santé mentale, alors paf, 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 je fais mon analyse personnelle. Puis tout d'un coup, ma thérapeute, elle me tend une de perches qui me renvoie à vraiment genre, mais en fait, ça dit quoi toi, tout ça, je sais pas quoi. Enfin, elle me vouvoie. Mais
elle vous.
Et puis en fait, tout d'un coup, je suis là, ouais, tu refais exactement ce que tu essaies d'éviter de faire. Tu n'arrives pas à ressentir le truc et tout. Et là, tout d'un coup, ça part et c'est tellement bien et je me sens tellement bien après. Franchement, c'est un truc de ouf. Genre, à chaque fois que je sors, genre, même si c'est, on a abordé des sujets difficiles et tout, je repars à vélo de la thérapie, j'écoute de la musique, je dis « Waouh, la vie, c'est ouf !» Franchement, c'est un petit film après à chaque fois en sortant. Donc, ironiquement, ouais, être prêt à accepter cette part de vulnérabilité et puis être prêt à recevoir ce petit... comment t'as dit, le petit coup de fusil, le petit coup de couteau. Toi,
ouais, mais tu vois, difficile, je trouve, c'est aussi un mot. Depuis une conversation, je suis beaucoup sur les mots qu'on utilise. Difficile, ça veut dire quoi en général? J'ai l'impression qu'il y a un malentendu sur ce que ça veut dire difficile. C'est effectivement des émotions qu'on a codées comme négatives, comme de l'angoisse ou de la peine. Mais en fait, difficile, c'est un mot pour moi qui fait peur quand t'as pas les outils. Quand t'es avec un thérapeute ou une thérapeute, justement, cette personne te donne des outils. Donc la difficulté, c'est juste quelque chose que tu vas... Elle disparaît dans le sens où ce qui peut être puissant comme émotion ou fort n'est pas difficile parce que tu es accompagné pour le faire. Et on peut pas tout résoudre tout seul, sans aide. Et je pense que ça, c'est vraiment aussi une leçon. On a des limites individuelles. On est dans un monde, comme tu le rappelais tout à l'heure, Marius, qui est très violent, qui est très dur, qui soit... Alors, pour toi particulièrement dans une situation individuelle, mais en général, politiquement, voilà. Et donc, on ne peut pas non plus résoudre tout ce que le monde nous renvoie. Mais sur la question des émotions difficiles, est-ce que c'est difficile d'avoir des émotions? Moi, j'ai aussi évolué dans cette compréhension-là, dans ce ressenti-là, c'est que je pensais effectivement ça va être difficile, mais en fait, le mot difficile perd son sens dès que tu te sens outillé, en fait, et dès que tu sais te projeter un peu plus. Et maintenant, j'essaie de plus parler d'émotions difficiles, mais d'émotions fortes, en fait. Et ça permet de les vivre différemment.
Dans le Pleure comme un homme, il y avait Giovanna de l'association Minds aussi, qui disait, je pense que c'est un des termes aussi qui est utilisé plus actuellement, c'est des émotions désagréables. Alors ça reste quand même teinté un peu négativement, mais le côté désagréable, il y a un côté temporaire, je trouve, dans désagréable qui est plus. Enfin, qui permet peut-être justement de mieux envisager ce type de problématique.
Ouais, mais en fait, qui est vraiment désagréable, un peu comme quand tu parlais, Maë, aussi. Moi, j'ai cette image d'un train avec plein de wagons qui sont attachés derrière. Et puis, quand tu freines pour prendre le temps de t'occuper de toi, il y a l'inertie des wagons derrière qui viennent te rentrer et tu as l'impression que ça va être énorme à processer. Mais si tu le fais jamais. Fait que tu enlèves des wagons, tu les allèges, et puis le jour où tu es obligé de freiner parce que tu as un accident ou parce que tu perds un proche ou un truc comme ça, tu arrives aussi à vivre ce qui se passe là et pas les millions de traumas ou de trucs pas digérés d'avant. Quoi.
Moi, je pense, et vous l'avez dit un peu entre les lignes, mais c'est quelque chose qui m'apparaissait hyper explicite là dans la tête, c'est qu'en fait, le désagréable autant T sera toujours moins désagréable qu'autant T plus 20 ou T plus 50. C'est-à-dire qu'en fait, je vois quand même plein d'exemples, c'est sûr que mon expérience personnelle n'est pas représentative de tout, mais quand même pas mal de cas significatifs de gens plus ou moins âgés qui ont grandi justement dans cette illusion de ce qu'on disait avant, l'homo masculinicus, etc. je peux prendre même l'exemple de mon père, en fait, et qui, en fait, bah, quand tu arrives dans les dernières années de ta vie, en fait, il y a des réveils, il y a des choses que tu... Qui te retombe dessus à crédit, entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, t'as refoulé tout ça, t'as été dans des fuites en avant toute ta vie, etc. Et là, bam, au bout d'un certain temps, ça arrive plus ou moins tard, mais il y a ce réveil qui arrive. Et je pense quand même, malheureusement, que pour beaucoup d'hommes, ce réveil est vraiment terrifiant, parce qu'en fait, c'est de te dire, mais j'ai vécu à côté de la plaque pendant toutes ces années.
Moi, j'ai assez parlé. Vas-y.
Non, vas-y.
Non, juste sur le mot désagréable, en fait, et ça me permet de boucler la boucle avec toujours le privilège. Et c'est pas pour dire aux gens, vous êtes privilégiés de vous poser des questions maintenant, mais qu'en fait, tu as le choix du désagréable ou pas. Et que nous, on est autour de cette table et on dit, mais en fait, prenez le choix du désagréable parce que, pas pour faire comme toutes les personnes qui n'ont pas le choix du désagréable, mais justement pour leur dire, en fait, ça vous offre un spectre de réalité tellement plus vaste et tellement plus extraordinaire et tellement plus en communication et en fait quelque part aussi c'est drôle, l'être humain a envie d'appartenir et en même temps on nous inculque, et notamment aux hommes, ce trait d'indépendance qu'on doit tout résoudre soi-même tout seul, et donc on nous pousse aussi à la solitude quelque part.
Ouais.
Et dans la gestion émotionnelle et face au désagrément, on peut se sentir tellement seul. Mais en fait, le fait de, alors certes d'en parler, mais aussi de rentrer en fait dans une action peut-être plus communautaire, fait que en fait ça casse aussi avec ce schéma-là de solitude. C'était tout ce que je voulais dire.
Moi, c'est clair, la solitude, c'est quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup ressenti dans ma vie avant, et puis qui est moins le cas maintenant. Et j'ai discuté avec un homme trans récemment qui avait été assigné femme à la naissance, qui me disait à quel point il était surpris de ce sentiment de solitude en essayant d'avoir des amitiés avec d'autres hommes et des choses comme ça, et qu'il découvrait un désert émotionnel énorme qu'il n'avait pas du tout anticipé. Et il était là, mais qu'est-ce qui se passe chez vous, quoi ?
Pour revenir sur la vulnérabilité, en fait, si on repense juste, tu vois, le psy qui te demande pourquoi, moi, des fois, cette question du pourquoi, je vois que ça comme des poupées russes que tu ouvres. Alors, pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi si, pourquoi ça.
Puis, c'est interminable.
et puis, bah, en fait, la dernière poupée russe, en fait, il y a un truc qui est vraiment hyper basique. C'est que, de toute façon, c'est prouvé, la vie est faite de moments. Pour le coup, là, les moments, ils sont vraiment difficiles. La mort fait partie de la vie, les maladies font partie de la vie, les peines de cœur font partie de la vie, etc. Donc le plus tôt, j'apprends à... d'une part, les accepter, ressentir ce que cet événement réveille en moi, etc., etc. Le mieux, ça ira. Et ça ne veut pas dire qu'on sera forcément armé et que la vie va redevenir un long fleuve tranquille. Mais quand même, encore une fois, la vie, c'est aussi ça, malheureusement. Donc, on ne peut pas faire semblant. Et faire semblant de surfer comme ça, comme des hommes qui ne sont pas atteints par les événements, ça n'existe pas, quoi. Et je pense que là-dedans, du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup sur l'éducation. On n'a pas forcément parlé de ça, enfin on a parlé sur nos role models, etc. Mais je trouve que dans le monde occidental, on a vachement justement tout basé sur l'intellect, etc. et la productivité. Et d'ailleurs, je fais un lien avec le capitalisme, sans faire mon altermondialiste du dimanche. Mais tout à l'heure, on disait aussi ce truc de la solitude, mais en fait, c'est aussi complètement basé sur ce mythe du self-made man. Et en tant que gars, on va jamais avoir besoin de l'aide d'un tel ou un tel. Et du coup, je vais même traverser ma période de peine tout seul, etc. Mais enfin, c'est vraiment des grosses illusions comme ça. C'est Hollywood, quoi, le truc. Et en fait, on parlait d'armure, etc. Quand tu vois les petites fissures dans le Hollywood, là, et que tu vois la lumière derrière, moi, c'est comme ça que je le vois. Ben, en tout cas, mon réflexe, et j'espère que plein de gens vont commencer aussi à... enfin, continuer à se rendre compte de ça, c'est d'aller regarder derrière et de se dire, mais en fait, la réalité, elle est tout autre. Et je peux être 1000 fois plus heureux, encore une fois, étant donné cette structure qui, elle ne va pas bouger, encore une fois. Malheureusement, une vie n'existera jamais sans les douleurs d'un parcours d'un être humain lambda, quoi.
Je disais que devenir père m'avait beaucoup secoué là-dessus. Sur comment est-ce qu'on s'y prend concrètement dans l'éducation, notamment, tu viens de le mentionner, José, pour parler de ça, on a mis des petits trucs en place, notamment à la maison. Nous, maintenant, on a un tableau des émotions qui est sur deux axes, avec est-ce que l'émotion, elle est agréable ou désagréable, est-ce que j'ai beaucoup d'énergie ou peu d'énergie, et ça fait quatre cadrans avec les émotions. Donc si on a beaucoup d'énergie et que c'est positif, on va être dans le bonheur. Et si on a peu d'énergie et que c'est négatif, on va être plus dans le côté déprimé. Et beaucoup d'énergie et très désagréable, c'est plus la colère ou la rage. Et très agréable, mais peu d'énergie, c'est plus relax, des trucs comme ça. Donc il y a un peu cadran. Et puis on a chacun un post-it avec nos initiales. Et quand on sent qu'il y a un truc qui ne joue pas, on va, les enfants et moi et ma compagne, on va mettre les post-it sur où on se sent, pour comprendre où les autres en sont, et pour aussi voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'en fait, parfois, juste en changeant l'énergie, en se calmant, ou en faisant un truc qui dynamise, on va changer les émotions qu'on a. On a beaucoup plus de prise que ce qu'on pense avec des petits outils comme ça. Et donc voilà, ça c'est mon petit exemple. Et
ouais, puis, c'est un bon exemple parce qu'il y a aussi cette fameuse roue des émotions où tu as les 6 émotions, puis après tu as plein de déclinaisons. Puis en fait, moi j'avais pris connaissance de cet outil il y a quelques années, puis j'étais là, ouais, bon. Et puis en fait, dans cette période où je me posais vraiment beaucoup plus de questions et puis j'essayais de trouver un peu des solutions pour que ça aille mieux, en fait cet outil tout d'un coup il a été hyper utile parce que j'avais des moments où j'avais une espèce de brouillard intérieur, c'était flou, c'était sombre, ça allait pas bien. Il y avait un truc où il y a tout le monde qui m'énervait autour de moi. Il fallait vraiment que je digère un truc à l'intérieur. Puis en fait, je me suis posé, mais j'étais là, mais en fait, tu ressens quoi? Et pendant très longtemps à cette question, j'allais plutôt essayer de trouver des solutions de ah, c'est parce que tatata, il faut que je fasse ci et ça, et ensuite ça ira mieux par rapport à ça. Et j'étais de nouveau dans l'intellectuel, dans trouver des solutions. Puis après, en fait, je me suis dit, mais genre pose-toi et genre mets ton doigt sur un truc de cette roue des émotions, parce que si t'es pas capable de faire ça, en fait tu sautes une étape, hein. Et pour moi c'était la première étape qui était obligatoire et que j'ai sauté un milliard de fois, c'était juste de comprendre ce qui me traversait en fait.
Non, moi c'est une très bonne question, la question de comment est-ce qu'on fait pour ressentir ces émotions. Moi, je crois que, enfin, tu vois, Quentin, tu as utilisé le cas concret de ton rapport avec tes enfants. Moi, j'aime bien revenir aussi à ce truc des bébés, quoi. En fait, essayer de se rappeler un peu que la première manière de communiquer quand on est un petit bébé, c'est pleurer déjà. Donc, a priori, c'est quelque chose de naturel. Donc, pourquoi est-ce que en tant qu'homme notamment, je me suis coupé de ça? À quel moment? Comment? Et pourquoi? Pourquoi, Quentin?
Alors, si tu me donnes une petite demi-heure, je vais faire vite.
Attends, il pleure pas encore, attends.
Mais non, c'est vraiment le pourquoi qui entraîne. Mais donc ça, c'est la première chose. Même la joie, je veux dire, je vois aussi, encore une fois, pour faire le lien avec le monde capitaliste, etc., la productivité, la performance, le nombre de personnes qui s'autorisent pas aussi à vivre des choses cool. Et pareil, quand on est enfant, en fait, on adore jouer, on adore glander, on adore... Bon, on adore se réveiller un peu trop tôt aussi, mais on adore siester, on adore... Enfin, il y a plein de choses comme ça. Là, évidemment, on ne va pas tout le temps se comparer aux enfants, mais quand même, le postulat, il est presque plus sur le pourquoi que sur le comment, pour moi. C'est-à-dire, voilà. Pourquoi est-ce que, en tant qu'homme, j'ai arrêté de m'autoriser à pleurer, à ressentir des choses positives? Pourquoi il n'y a que la colère qui ressort, etc., etc.
La santé mentale, c'est la santé, tout court. C'est une ressource qu'on a pour vivre, pour accomplir ce qu'on désire accomplir, pour soutenir les gens qu'on désire soutenir. Et quand on ne s'y intéresse pas, elle se joue de nous, on va dire, si elle ne va pas bien.
Et puis ouais, c'est pas qu'un truc mental, un espèce de petit brouillard qui te passe au-dessus, à 2,5 mètres au-dessus de la tête. C'est vraiment un truc, moi ça me traversait en diagonale, ça me transperçait quoi. Donc il fallait que je la vive, elle était là, c'était obvious, mais il fallait que je vive cette émotion un petit peu. Et après, à partir de ça, tu peux faire un milliard de choses et puis tu peux aller solliciter l'aide d'autres personnes. Et ça, c'est le deuxième outil absolument incroyable, c'est juste d'extérioriser ton émotion. Parce qu'en fait, en parler à quelqu'un d'autre, ça met tellement tout d'un coup du clair sur le tableau.
Quand on parle de santé mentale ou émotionnelle, c'est déjà une grosse partie du boulot, parce qu'il n'y a rien de pire que de contenir les choses et de les remuer. Et moi, par exemple aussi, je sens que plus je parle, plus les choses se clarifient aussi.
On a beaucoup parlé de nos émotions en tant que soi et de notre vécu des émotions. On a parlé des autres en marge, un peu tout le temps dans nos expériences. Pour revenir sur la question du communautaire et du vécu émotionnel en groupe, c'est que en fait une émotion non vécue ou non assumée ou peu importe peut effectivement grandir énormément et en fait dans 20 ans exploser et finir très 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 mal. Et donc en fait on se doit de le faire pour les autres et les personnes qu'on aime en fait autour de nous. Et je pense qu'on peut, à mon avis, très bien vivre avec des mécanismes de dissociation ou alors en incarnant totalement une image de la masculinité ou de l'homme parfait qu'on nous a inculqué jusqu'à la fin de notre vie sans s'être posé des questions, mais est-ce que les personnes qui nous entouraient ont vraiment bien vécu? Et c'est peut-être cette question qu'on doit se poser, en fait, je pense.
Un autre truc aussi qui me semble important de dire sur cette question de qu'est-ce qu'on fait pour les émotions. Il y a plein de violences de couple qui viennent du fait que les mecs savent pas gérer leurs émotions. Ils partent dans des colères noires parce qu'ils ont aucune espèce d'autre moyen de s'exprimer, et ça peut avoir des conséquences très, très graves, en fait, physiques. Et donc je trouve que, je sais que pour moi, il y a aussi ce côté du fait de que je sois un homme, statistiquement, j'ai des chances, si je m'occupe pas de ça, de faire des choses qu'il faut pas.
Mais je pense qu'on apprend à gérer, on se doit de gérer nos émotions, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres. Parce qu'on vit dans certains milieux qui peuvent totalement subir les corollaires de nos émotions et notre incapacité à les gérer. Moi, j'ai énormément appris des émotions et de mon propre, de mes propres vécus et de mes propres expériences en parlant aux autres qui ont, elles, et c'était beaucoup de elles, aussi appris à gérer leurs propres émotions et aussi en parlant. Donc on devient tellement plus intelligent et intelligente à plusieurs. Et parce que je pense que c'est une des rares choses qu'il nous reste, vu l'état du monde, de délier les voix, la parole et de parler des problématiques que l'on rencontre et de nos états mentaux. Je pense que c'est une des solutions qui nous reste les plus prometteuses.
C'était Faut en parler, un podcast de Minds et Stop Suicide pour libérer la parole sur la santé mentale. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous et tout simplement à prendre soin de vous et des autres. Retrouvez José, alias Géos, dans son podcast Mask Off ou dans la mini-série sur le rap du podcast Les couilles sur la table. Quentin et son livre Comment devenir moins con en 10 étapes aux éditions Hors d'atteinte. Marius sur Instagram, @marius.dizeran, et Maë dans son podcast Toi aussi, réalisé pour Radar RP. Si vous vous inquiétez pour vous-même ou pour vos proches, vous trouverez des ressources d'aide sur stopsuicide.ch/besoin d'aide. Et si vous avez envie de mieux comprendre ce qu'est la santé mentale, rendez-vous sur minds-ge.ch. Ce podcast a été réalisé et monté par Julie Bianchin. Le mix est de Léonard de Hologne. Les illustrations sont signées Okyo, studio créatif à Nyon. La musique est de Livestream. Et les enregistrements ont eu lieu à La Planque, à Lausanne. Tous les épisodes sont disponibles sur stopsuicide.ch, minds-ge.ch et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, faut en parler.